Bonjour. Aujourd'hui, nous allons préparer la réunion des dirigeants de l'OTAN. Cette réunion aura lieu ici, à Bruxelles, au mois de mai. Cela fait 70 ans que notre lien transatlantique est d'une solidité à toute épreuve. C'est un lien qui est essentiel pour l'Europe et un lien qui est essentiel pour l'Amérique du Nord. Cette relation est particulièrement importante aujourd'hui, à l'heure où nous faisons face à des défis très sérieux. Lorsque nos chefs d'État et de gouvernement se réuniront dans 8 semaines, leur ordre du jour comprendra 2 points essentiels. Tout d'abord, il y aura l'idée d'un partage du fardeau équitable pour faire en sorte que ce lien transatlantique reste fort. Nous avons commencé à augmenter les dépenses de défense, mais nous devons maintenir cette dynamique et ainsi honorer l'engagement que nous avons tous pris. Donc il faut augmenter les financements, mais la question ne se pose pas qu'en termes de montant. Il faut également investir pour obtenir les capacités dont nous avons besoin. Il faut également engager nos forces pour les déploiements de l'OTAN. Donc, il est question de montants financiers, de capacités et d'engagement. Le deuxième thème important qui sera abordé sera celui de renforcer les efforts de l'OTAN pour projeter la stabilité et lutter contre le terrorisme. Cela fait des années maintenant que nous faisons des contributions importantes. Cela va de l'Afghanistan aux Balkans. Cela étant, l'OTAN dispose d'un potentiel inexploité. En Irak, nous sommes déjà en train de renforcer les capacités des forces locales. Cela passe notamment par une formation en matière de lutte contre les engins explosifs improvisés, formation qui sauve des vies. Par ailleurs, j'espère que nous serons en mesure d'élargir notre soutien pour y inclure de nouveaux domaines. Dans le cadre d'un effort international élargi, l'OTAN peut et doit faire la différence. À l'heure du déjeuner, nous nous pencherons sur les relations de l'OTAN avec la Russie. Les partenaires essentiels de l'OTAN que sont l'Union européenne, la Finlande et la Suède participeront à ces discussions. Nous avons une position unie vis-à-vis de la Russie. Défense et dissuasion forte associées à un dialogue. Et nous avançons sur ces 2 fronts. Cette réunion ministérielle se conclura par une réunion de la commission OTAN-Ukraine. Cela constitue un message important quant à notre engagement vis-à-vis de l'Ukraine. Notre soutien est tant politique que pratique. Nous fournissons une aide dans les domaines de la cyberdéfense, du commandement et contrôle et dans le domaine médical. Sur ce, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Le Wall Street Journal. Monsieur le secrétaire général, est-ce que vous pensez que les Américains en demandent trop en matière de dépenses de défense? Est-ce qu'il faut que les Américains écoutent des explications européennes s'agissant des capacités qui sont tout aussi importantes? Voilà ma première question. Et d'autre part, est-ce que vous pensez que M. Tillerson a choqué les uns et les autres avec ces questions de calendrier? Est-ce qu'il y a des doutes par rapport à l'importance qu'il accorde à cette alliance? Et réponse? Il faut se souvenir que les dépenses de défense et l'augmentation de ces dépenses, c'est quelque chose qui a fait l'objet d'un accord de la part de 28 alliés en 2014. Ainsi, nous étions tous d'accord, les États-Unis, le Canada et les alliés européens. Nous étions tous autour de la même table et nous avons décidé de mettre un terme aux réductions, passer à une augmentation et ensuite passer à 2% dans les 10 ans. Donc, l'augmentation des dépenses ne se fait pas pour faire plaisir aux Américains. Il s'agit d'investir pour renforcer la sécurité européenne. Et c'est l'intérêt de l'Europe. Nous sommes à proximité des troubles qui existent en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, en Irak, en Syrie. Et l'Europe se trouve à proximité d'une Russie agressive qui est prête à avoir recours à la force en Ukraine. Donc les investissements de défense relèvent de l'intérêt des Européens. Et c'est la raison pour laquelle l'ensemble des alliés étaient d'accord pour prendre cet engagement en matière d'investissement supplémentaire. Ensuite, s'agissant des questions de calendrier, du changement de date, les ministres des Affaires étrangères sont des gens avec un programme très chargé. Et il arrive que donc les dates ne conviennent pas aux uns et aux autres. Et donc, je suis très heureux qu'on ait réussi à trouver une nouvelle date et qu'on puisse se retrouver aujourd'hui, c'est-à-dire plus tôt que prévu. Par ailleurs, je pense que le fait qu'on ait réussi à reprogrammer cette réunion aussi rapidement montre bien ce qu'il en est de la souplesse de l'Alliance Et plus important encore, cela montre l'engagement qui existe au niveau de chaque allié auprès de l'Alliance et du lien transatlantique. Il est essentiel qu'on puisse se réunir à une époque où il y a des défis sécuritaires très importants auxquels nous devons faire face. Nous devons donc renforcer le lien transatlantique et je serai donc très heureux de pouvoir saluer et travailler avec M. Tillerson, le secrétaire d'État américain. Je serai très heureux. J'avais été très heureux déjà de rencontrer le vice-président, M. Pence, et puis le ministre de la Défense. Donc on voit qu'il y a un engagement très fort, qui d'ailleurs ne passe pas que par les mots. Il y a également des agissements, cette participation donc à leur réunion, mais aussi le déploiement de forces américaines supplémentaires en Europe. CNN? Est-ce que vous pouvez accélérer la cadence par rapport à ces 2% de dépenses de défense? Eh bien, nous avons déjà inversé la tendance s'agissant des dépenses de défense. Il ne faut pas oublier notre décision de 2014. La décision n'était pas de consacrer 2% du PIB à la défense dès l'année suivante. Il s'agissait d'abord d'arrêter les réductions et ensuite d'inverser la tendance et de passer à 2% dans les 10 ans. Alors, certains alliés sont déjà à ce niveau, mais la bonne nouvelle, c'est que cette année, la Roumanie, par exemple, a expliqué que d'ores et déjà en 2017, ils vont être à la hauteur de cet objectif. Donc, ils viennent se rajouter à la liste des pays qui sont déjà à 2%. Pour l'an prochain, la Lituanie et la Lettonie ont annoncé la même chose. Ils seront à 2% également. Par ailleurs, on a vu des augmentations importantes des dépenses de défense au niveau européen, et ce, depuis cette décision de 2014. En 2015, les réductions ont pris fin, et en 2016, on a assisté à une augmentation importante des dépenses de défense, 3,8%, ce qui équivaut à environ 10 milliards de dollars américains. Donc, le cap est le bon. Bien sûr, la route reste longue, mais je me félicite du fait qu'il y ait une décision qui a été prise et qu'elle soit à présent suivie des faits. Et on voit qu'à la suite de cette décision, le Canada et les alliés européens ont commencé à mettre un terme aux réductions et ont augmenté leurs dépenses. Agence France-Presse, une possibilité serait qu'il y ait des plans nationaux, ce qui mettrait un peu plus de pression au niveau des pays, parce que chaque année, il devrait expliquer les avancées qui ont été réalisées. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait faire l'objet d'une décision aujourd'hui? Réponse? Eh bien, je pense que les plans nationaux seront abordés aujourd'hui. Ce sera un thème important. Parce que l'idée d'avoir des plans nationaux pour tous les alliés, c'est quelque chose qu'on a commencé à étudier. Et l'idée serait d'avoir une décision lorsque les chefs d'État et de gouvernement se réuniront en mai. Mais cette réunion constitue un jalon important dans l'optique de cette réunion de mai. Et donc, je pense qu'on abordera effectivement dès aujourd'hui la manière d'atteindre et d'honorer l'engagement qui a été pris. Alors, l'idée de ces plans, c'est de donner la manière dont on va respecter l'engagement qui a été pris en 2014. Mais ça va au-delà des montants, cela va au-delà des dépenses. Il s'agit également de questions capacitaires, voir comment nous allons surmonter les lacunes capacitaires et nous doter des capacités dont nous avons besoin. Il s'agira également de voir comment les alliés peuvent affecter, déployer des troupes au niveau des engagements OTAN. Donc, il est question de dépenses financières, certes, mais aussi de capacités et d'engagement. Alors, ensuite, les contours exacts de ce mécanisme et de ces plans, c'est encore trop tôt pour le dire, mais il y a des discussions qui sont en cours. D'autre part, il est clair qu'il faudra qu'il y ait des différences d'un pays à l'autre, mais malgré cela, il faudra qu'il y ait un document qui permette de récapituler ce sur quoi nous nous sommes mis d'accord en termes de dépenses, en termes de capacités et en termes d'engagement de forces armées en 2014. Associated Press. Le nouveau gouvernement américain veut également qu'on en fasse plus en matière de contre-terrorisme à l'OTAN. L'OTAN déploie des troupes dans les États baltes et en Pologne à des fins de dissuasion. Alors pourquoi est-ce que l'OTAN ne peut pas faire la même chose pour contrer le terrorisme, car il s'agit d'une préoccupation de bon nombre de nos concitoyens? Réponse. L'OTAN accorde déjà une grande importance à la lutte contre le terrorisme. Il faut se rappeler que notre plus grosse opération historique, la lutte en Afghanistan, c'était une question de lutte contre le terrorisme. Il s'agit d'essayer de faire en sorte que l'Afghanistan ne puisse plus être un refuge pour les terroristes. Et nous sommes là pour aider et soutenir les forces afghanes à l'heure de lutter contre un grand nombre de groupes terroristes et contre les talibans. Nous fournissons un soutien à la coalition menée par les États-Unis qui lutte contre Daesh en Irak et en Syrie. Nous formons des officiers irakiens. Par ailleurs, nous fournissons un soutien direct grâce à nos aéronefs AWACS. Et nous travaillons avec différents pays de la région, la Jordanie, la Tunisie et d'autres, pour les aider à renforcer leurs capacités pour qu'eux-mêmes puissent lutter contre le terrorisme. D'autre part, je soulignerai que la présence de l'OTAN dans les Balkans est liée à la lutte contre le terrorisme, parce qu'une région stable dans les Balkans, c'est très important pour pouvoir juguler la menace représentée par les combattants étrangers. Je me suis rendu en Bosnie-Herzégovine et au Kosovo tout récemment, et j'ai été très heureux de voir à quel point ils prennent sérieusement la question de ces combattants étrangers. Par ailleurs, nous voyons quelles sont les autres choses que nous pouvons faire. Et je pense que ce sera un point important s'agissant de notre discussion aujourd'hui. Et cela sera également un point important lors de la réunion de mai, lorsque le président M. Trump et les autres chefs d'État et de gouvernement viendront ici à Bruxelles, au siège de l'OTAN. Permettez-moi de rajouter une dernière remarque. Un enseignement important que l'on a pu tirer du Kosovo, de la Bosnie-Herzégovine et de l'Afghanistan, c'est que, à long terme, il est préférable de lutter contre le terrorisme et de projeter la stabilité par la formation des forces locales, par le renforcement des institutions locales, plutôt que par un déploiement important de nos propres troupes de combat à l'OTAN. Et c'est précisément notre approche en Afghanistan. On a mis un terme à notre mission de combat et on aide les forces locales pour qu'elles puissent lutter elles-mêmes. Et c'est d'ailleurs ce que nous faisons également en Irak. Merci infiniment. Merci.